Rosny jeune, ruse d'amour. Je ne verrai plus sans doute de soir semblable à celui-là. Une lumière orange remplissait la vallée, et quoique le soleil fût couché, elle persista longtemps sur les collines, les prairies, les rivières, comme si elle eût émané de ces choses. Spectre d'un soleil disparu, dernière trace vibrante du père de la vie. Est-ce que nous savons les accords de l'âme avec la nature? J'eus l'impression ardente, fausse sans doute, mais invincible, que ce soir, parmi les millions de soirs que l'homme a connus et connaîtra, était un soir à moi, qui se trouvait correspondante aux fibres les plus secrètes de mon être, et que cet être, dilaté et répandu en lui, participait ainsi des grands secrets du monde, avait un pouvoir mystérieux d'action, qu'il n'aurait qu'à ce moment. Les sceptiques absolus diront que j'ai eu tort et rejetteront sur des sens hallucinés, sur un fanatisme scientifique, la pénétration soudaine et la volonté dont je fis preuve alors. Mais je persiste dans ma croyance. Il y avait 3 mois que je m'étais épris de Colette de Nevers, la fille du prince, sans aucune chance de l'obtenir. Le prince, parvenu ridicule, qui doit son titre à des combinaisons louches, sa fortune à un beau mariage, destinait sa fille unique, Colette, à quelque rejeton de sang royal, espérance nullement exagérée à une époque où le milliard comble toutes les distances. J'imagine, devant une pareille situation, un pauvre diable comme moi, assez niais pour tomber follement amoureuse de la petite princesse, et passant des journées et une partie de ses nuits à la poursuite de sa chimère. L'impossibilité même devint rapidement pour moi une hantise. Le régime des castes qui nous gouvernent, le pouvoir abusif de l'argent, cette espèce de cristallisation d'une société où la volonté et la personnalité humaine finissent par se noyer complètement, occupèrent mes heures. J'essayais de résoudre le problème par la science, mais rien ne me réussit. Mon amour m'aidait dans ses études. La beauté de Colette portait le ravissement dans mes contemplations et me donnait la force de les poursuivre. Cette fille était assez singulière. Elle s'intéressait à beaucoup de choses. Et je l'ai vue frapper du pied avec colère parce qu'on lui refusait une explication sous le prétexte qu'une jeune fille de son monde et de sa fortune n'avait que faire de certaines connaissances. Mais je veux savoir, savoir, répondait-elle. Peut-être était-elle plus adorable en ces minutes, ses grands yeux brûlant d'un feu sombre, sa chair mate au ton chaud et doré, soudain envahie par l'incarnat de belles roses. Elle aimait parler avec moi. Je lui disais les silencieux enchantements d'un univers qu'elle ne connaissait que par les définitions des pédants. Je me rappelais Descartes et la reine Christine. Les femmes savent qu'un homme qui leur parle d'amour dès qu'il s'exalte. Colette, enthousiasmée, me donnait la récompense de châtelaine au troubadour, l'effarement de ses prunelles dans un regard qui n'en finissait plus. Je l'arrachais alors à la misère des existences de vanité. Son cœur de fille pubère battait pour un monde qui nous appartenait à nous seuls. C'était comme une possession déjà, et peut-être plus douce que l'autre. Lentement, je la fascinais, sans oser encore, tous les préjugés sont vivaces, lui dire que je la voulais pour ma femme, et que j'étais déterminé à la conquérir malgré tous les obstacles. Et c'est en ce soir admirable que le courage me vint. J'avais rendez-vous avec le prince pour une consultation architecturale. Il a la manie de vouloir qu'on l'admire et qu'on l'encourage. Quand les grands noms lui manquent, il se rejette sur le menu fretin. C'est ainsi que j'étais devenu, à Amailly, son conseiller ordinaire. Nous parcourions l'immense parc, demeuré sauvage en grande partie. Une rivière ici nue, orgueil de cet homme d'argent. L'eau est magnifique, d'ailleurs bondissante, étonnante, pleine de creux terribles, de fracas d'écume. Je l'aime. Elle m'a vu enfant sur ses bords. Je la franchissais en jouant avec mes compagnons, et plus d'une fois, nous faillîmes y noyer, de sorte que je connaissais les endroits dangereux, les tourbillons, les enrochements, où, petit à petit, se sont formés des tunnels. Le prince projette un pont merveilleux, tout cintré, assez semblable à ce qu'on voit sur les estampes d'Otamaro ou de Molusai. En attendant, une passerelle conduit d'une rive à l'autre. Reste d'une vieille installation paysanne, espèce de grande poutre formée d'un gigantesque tronc d'arbre aplani. Un seul parapet le bordait, car le bétail avait coutume de le traverser le matin et le soir, et les vaches se seraient mal accommodées d'une double protection trop étroite pour leur gros ventre. Je nous revois toujours, le père, la fille et moi, arrivant devant cette passerelle et regardant tomber le soir sur la vallée. Mes yeux ne quittaient pas Colette, et quand elle se retournait, elle me trouvait là, l'aimant de toute mon âme. Je savais bien qu'elle n'en était pas fâchée, au contraire. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en voyant son père marcher sur le tronc d'arbre. « Jamais je n'oserais m'aventurer !» Là-dessus, j'ai le vertige, rien que d'y penser. Néré, pusillanime, au fond, aime causer des frayeurs aux femmes en affrontant des périls imaginaires. Il demeura donc sur le pont, et même par bravade, il s'adossa au parapet, qui criait un peu sous son poids. Je n'ignorais pas le défaut de solidité de cette construction, ni surtout que le bois de l'un des poteaux était pourri. Alors j'eus d'abord l'intention de crier ma frayeur, mais à ce moment, déjà, ma volonté s'éveillait et mon intelligence prenait la lucidité singulière dont j'ai parlé au début de ce récit. Je me tus, la grande horloge du destin marquait mon heure du ciel au ciel. Le soleil avait disparu. Il allumait encore dans le ciel de grands nuages qui s'entouraient d'un galon de pourpre. Mais il avait abandonné les bois et les prairies. Il laissait s'amasser l'ombre violette dans les sous-bois et monter de la terre un brouillard qui est-ce ton père et lointain? Que se passe-t-il à ce moment dans l'âme des autres? Je ne le sais. Mais moi, j'étais plein de force, de confiance, de certitude. Colette, attendrie par le soir, me regardait avec douceur. Elle me montra d'un geste la beauté de ce coin du ciel. C'est toujours ainsi que les femmes m'ont dit et diront leur amour. Je la compris d'autant mieux qu'une fièvre me brûlait, qui me permettait d'embrasser à la fois le présent et l'avenir. Mais je ne proférais pas une parole, je me recueillais. Le soir tombait. Alors je m'avançais à mon tour sur la passerelle branlante, sous le regard de Colette, et soudain, à deux pas du prince, je m'appuyais contre le parapet unique. Le poteau craqua, un cri partit de la rive, et j'eus le temps de voir le prince faire de grands bras, puis tomber dans l'eau. Je l'y suivis. Je nageais comme un poisson. Je connaissais ma rivière. Un grand avantage, saisir le prince qui avait plongé, le maintenir solidement sous les bras et le coucher sur ma poitrine en me soutenant à l'aide de mes jambes fut pour moi l'affaire d'un instant. Mais je n'eus garde de gagner le bord. Je pris pied en plein tourbillon et je tins le prince dans une effroyable terreur en lui disant « Oh, je me fatigue, arriverons-nous jamais à nous tirer de là ?» Et comme toutes les âmes pusillanimes, il crut un instant, instantanément, que j'allais l'abandonner. Oh, il l'eût fait à ma place. Et s'accrochant à moi, avec l'énergie du désespoir, il me supplia de ne pas oublier qu'il était le père de Colette. D'ailleurs, celle-ci, s'approchant de moi aussi près qu'elle le pouvait, me cria dans une double effusion de son cœur adorable, « Sauvez mon père, monsieur Raymond, je serai votre femme !» Le prince ne manqua pas de se jeter sur cette perche morale et répéta après sa fille « Oui, 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 si vous me sauvez, je vous accorderai ma fille. » Je dominais les événements. Ceux qui ont connu jeune l'amour sauront quelle force me vint à l'idée que, non par hasard, non par surprise, mais par ma propre volonté, j'étais le vainqueur dans cette lutte terrible. Je restai quelques minutes à goûter mon délicieux triomphe, puis, saisissant le malheureux névé que le froid commençait à transir, je nous laissai dériver ainsi que de misérables épaves. Nous atterrîmes bientôt, sains et saufs. Un quart d'heure plus tard, le prince était au lit et buvait de la tisane chaude. Moi-même, j'ai changé de vêtements et nulle tisane n'avait pu me mettre dans mes veines. Le feu qui les parcourait. Névé essaya de me faire accepter une compensation. « Cher prince, dis-je, la galanterie me le défend. » Toutefois, elle m'interdit aussi d'accepter une offre qui ne serait pas faite de bon cœur. Et je me tournai vers Colette. « Serez-vous ma femme ?» Or, elle avait les beaux yeux dorés des amoureuses. Elle répondit avec une douceur qui ne trompa point son père. L'amour filial m'en fait un devoir. Le prince eut la bouche close. Il soupira, se retourna sur l'oreiller, en faisant semblant de dormir.